tout le monde.
Alors, vous êtes avec moi en direct de Paris. Joseph, merci beaucoup de l'être. Vous publiez un nouveau livre aux éditions de l'Observatoire. Il s'appelle « Nos intelligences multiples », sous-titré « Le bonheur d'être différent ». Alors, je peux replacer un petit peu pour nos auditeurs, pour bien comprendre de quoi nous allons parler aujourd'hui. Je vous cite tout d'abord, page 181. Toutes les formes d'intelligence ou toutes les formes d'humanité ne sont pas porteuses des mêmes prédispositions au succès social ou même à leur seule pérennité. Il en va ainsi des mondes autistiques, n'ayant pas été conçus avec un but lucratif ou narcissique dans un cadre social pour qui ces deux horizons paraissent indépassables, eh bien, ils sont bien plus fragiles, évidemment. On parle de qui ? Des personnes avec autisme, on a l'habitude d'en parler avec vous dans cette émission. Joseph, vous faites notre bonheur une fois par semaine. Et donc, vous nous parlez de ces fameuses intelligences multiples. Et on va commencer par le commencement, c'est le premier chapitre, qui va parler de notion d'intelligence, de différence et de normalité. Est-ce que pour que nos auditeurs comprennent bien le sujet du livre, vous pourriez vous-même le présenter ?
Merci beaucoup, tout d'abord. Alors, comme vous le savez, il y a une sorte de grand classique dans l'histoire de la psychologie. C'est le livre qui s'appelait « Les intelligences multiples » de Howard Gardner. Et ce livre-là avait un peu renversé ce paradigme, j'allais dire presque ce dictat du QI, quotient intellectuel. Cette idée qu'il y aurait une hiérarchie unique, biologiquement ancrée, des êtres humains. Et donc, Howard Gardner a un peu brisé ce tabou, finalement tout à fait scandaleux. Et l'idée dans mon petit livre était, je dirais, d'inclure une dimension additionnelle, à savoir cette dimension de la diversité, biodiversité humaine, qui comprend des personnes autistes ou des personnes ayant d'autres types de fonctionnement qui ne passent pas pour normaux. Vous voyez, donc c'était une sorte, je dirais, de rêvasserie libre autour des capacités, du mode de fonctionnement des personnes différentes. Voyez, et on pourrait peut-être le dire de façon plus rigolote et plus plaisante. Au fond, le mot intelligence, dans sa toute première signification, évoque une racine verbale qui donc signifie le fait de prélever des herbes médicinales. Il y a un effet thérapeutique dans le mot intelligence. Donc, je dirais tout à fait au sens indo-européen de la racine. Donc je pourrais le dire de façon rigolote que l'intelligence autistique, l'intelligence multiple a une sorte d'effet psychédélique, une substitut, je dirais, pas la peine d'avoir certains produits, je dirais, pour pouvoir concevoir de nouveaux mondes ou de nouvelles façons d'être humain.
Voilà, et donc toute la question évidemment est, peut-on exister quand on sort de la norme de ce monde de plus en plus homogène, parce que ça, vous allez nous en parler pendant une partie du livre, c'est qu'effectivement, être différent aujourd'hui est de plus en plus difficile, puisque le monde s'homogénéise de plus en plus.
Oui, Jérôme, c'est un peu la partie déprimante, hein, qu'on se dise franchement les choses du livre.
Ouais.
Un constat déprimant plutôt. À savoir, j'ai vraiment l'impression qu'au fil des décennies, au fil du progrès ou de la modernité, chacun choisira son mot préféré, nous avons beaucoup perdu. Nous avons perdu beaucoup de potentialités. Perdu beaucoup de talents en cours de route, de personnes que nous avons reléguées un peu aux marges de la société. Alors on peut le voir dans mille et un domaines, on peut prendre une foule d'exemples concrets et simples. Prenons par exemple la disparition des métiers que l'on pouvait exercer naguère par, je dirais, sa volonté propre, le métier de berger. À l'époque, il n'y avait pas d'homologation des communautés européennes pour exercer le métier de berger ou que ça. On pourrait prendre d'autres exemples, par exemple les façons d'habiter. Il fut un temps, et ça existe encore dans certains coins d'Europe de l'Est, où chacun construisait sa maison. Donc il n'y avait pas réellement d'obstacle, pas d'obstacle majeur à ce que les gens aient un logement. De nos jours, il faut avoir un capital conséquent, ça demande un certain nombre de démarches bureaucratiques. Et cela fait que dès que vous vous écartez un peu du chemin bureaucratiquement prévu, eh bien vous risquez d'être dans la marginalité. Et donc à de nombreux niveaux sociaux, économiques, je crois qu'il y a une sorte de durcissement de la société qui écarte un certain nombre de gens, un certain nombre de talents.
Alors, on va utiliser les mots qu'il faut, hein, pour être très clair, Joseph. On va parler de bonheur. Alors, ce qu'on nous vend, nous, c'est qu'effectivement, dans la vie, il faut parvenir au bonheur. Il faut parvenir à être heureux. Et depuis l'école, on nous tente à nous faire rentrer dans un rang. Et on nous dit, si tu rentres dans ce rang, tu auras un métier, une femme, un chien, une maison, et tu seras heureux. À condition, évidemment, de rentrer dans le rang. On nous fait croire que le bonheur, il passe par l'hyper-normalité, justement, par le fait d'accepter l'homogénéisation. Et vous, vous dites, non, c'est pas ça.
Oui, et je pense, Jérôme, c'est très clair. Hein, dans toutes ces années de balade à travers le monde qu'il m'a été donné de faire, j'ai rencontré beaucoup de gens non autistes qui étaient tristes comme des chiens, qui avaient des vies ternes et grises. Ça, c'est très frappant. Et à l'inverse, vous rencontrez des gens autistes qui ont un mode de vie, certes inattendu, socialement non prévu, mais qui ont une sorte de lueur de béatitude, parfois absolument saisissante sur le visage. Voyez, pardon de faire ce petit aveu, hier soir j'ai regardé quelques vidéos sur les collectionneurs compulsifs, les hoarders, comme on dirait en anglais. Hein. Et donc, il y avait à un moment donné un monsieur d'un certain âge qui avait des dizaines de milliers de bouquins chez lui, et donc les services sociaux anglais le traquaient pour qu'il mette les livres à la poubelle. Mais ce qui m'avait frappé, c'est cet air de béatitude du monsieur lorsqu'il se retrouvait entre ces dizaines de milliers de livres à bouquiner un ou deux, je me suis dit finalement, peut-être qu'il est beaucoup plus heureux que quelqu'un qui a gagné grassement sa vie dans je ne sais quel bureau. Vous voyez, ce sont des constatations profondément humaines. En tout cas, pour le dire clairement en une phrase, je suis à peu près devenu convaincu que le système, je dirais, de l'homo economicus, c'est-à-dire cette espèce de transformation de l'être humain en portefeuille géant qui gère ses flux entrées et sorties d'argent, et cela ne peut pas mener à une vie épanouie, hein, même avec un très 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 gros stock financier, hein, dans le portefeuille.
Mais alors, pourquoi, à votre avis, Joseph, cette société que vous scrutez, que vous lisez, que vous étudiez, que vous voyez avec votre œil, pourquoi est-ce qu'elle nous dit que la normalisation, que le fait d'entrer dans la norme, amène au bonheur? Quel serait le plan derrière ça, de vouloir à tout prix tous nous normaliser en nous promettant évidemment derrière ce bonheur que nous attendons tant?
Je crois que peut-être qu'il y a un moment de rupture qui doit intervenir dans la vie. Chez les gens autistes, cette rupture-là se produit presque dès la naissance ou dès les toutes premières années, parce qu'on se rend compte que la personne est, entre guillemets, pardon pour le mot horrible, irrécupérable. Et donc, du coup, la personne a une certaine liberté. Et c'est le principe du fou du roi, naguère. Hein. Il y avait un fou qui avait en fait une liberté très supérieure au premier des courtisans, parce que tous les autres courtisans devaient flatter le roi, même quand ils pensaient l'inverse dans leur tête, évidemment. Seul le fou, comme il était considéré comme irrécupérable, totalement perdu, eh bien lui, il avait, je dirais, presque une vie de qualité, pour le dire un peu cyniquement et brutalement. Et donc, d'une certaine façon, chez les gens qui, entre guillemets, ont trop bien réussi dans la société, eh bien, ce moment de rupture soit n'arrivera jamais, soit se produira bien trop tard. Je me souviendrai toute ma vie de ces paroles d'un néo-zélandais devenu taïwanais, donc moine bouddhiste taïwanais, qui nous avait donc dit à sa façon, il faut espérer que votre crise existentielle se produise le plus tôt possible. Si c'est à un âge avancé, eh bien vous avez perdu toutes ces potentialités-là. D'une certaine façon, quand on est marginal dès le départ, on a du bol.
on va creuser cette question parce qu'elle est évidemment passionnante et on attend tous nos grandes crises existentielles. Jacques de Pierrepont.
Oui, ben, déjà dans le livre, évidemment, on se pose inévitablement la question de la définition de l'intelligence dont Joseph Skovanek dit que dans notre société, ben, elle se vit selon des formes de hiérarchie. Voilà.
Le fameux QI, hein, on est intelligent si on a des bons scores au QI, est con si on n'a pas des bons scores. En gros, c'est ça, c'est terrible, parce qu'il n'y aurait alors qu'une intelligence.
Mais pas que, évidemment, rappeler la différence entre... Enfin, elle est rappelée dans le livre, il y a très longtemps, un homme intelligent n'est pas un homme d'esprit. Ce n'est pas la même chose. Mais ce que j'aime bien, c'est cette phrase qui est très d'actualité. Donc, je vous cite Joseph. « Notre temps fait de la parole volubile le premier des critères d'intelligence.
Ouais. »
En clair, quelqu'un, et vous citiez d'ailleurs l'exemple d'un ministre français, Couve de Murville, qui lui prenait tout son temps avant de répondre et donc commençait sa réponse par un silence. Et dans les médias d'aujourd'hui, c'est impossible.
C'est la parole et faire du bruit qui est la plus grande preuve d'intelligence, faire du vent, la plus grande preuve d'intelligence aujourd'hui, Joseph.
Faire du vent, je n'oserais pas le dire comme ça. Je dois quand même manifester un peu de respect envers les puissants, si j'ose dire, pour ne pas perdre ma
petite fois,
pitance. oui, je le sais bien, hélas. Mais en effet, je crois qu'il y a une sorte de valorisation sociale de cette parole aisée. Hein. C'est quoi quelqu'un de brillant quand on dit ça? C'est quelqu'un qui commence un très long baratin avant même que vous ayez fini de poser votre question. Là, on dit, qu'est-ce qu'il est brillant. Par contre, quelqu'un qui prend le temps d'écouter ou quelqu'un qui ne parle pas ou parle très peu soit considéré comme bête. Et son parcours de vie sera semé de mille et une embûches sociales. Alors que fondamentalement, cette personne n'est pas plus bête qu'un autre. C'est au contraire. On peut considérer que quand on écoute davantage, on a plus le temps de réfléchir aux choses. Donc, c'est une sorte, je dirais, de perversion de l'idéal classique de la sagesse. Le sage, c'était quelqu'un dans, je dirais, l'ancien monde qui savait écouter. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et je crois que beaucoup de personnes autistes paient cela pleinement, paient cela plein pot. Parce que dès que vous ne parlez pas ou très peu, vous êtes considéré comme bête, vous serez éliminé, je dirais, du monde des vivants. Vous voyez, vous serez éliminé de toutes les potentialités d'emploi et très probablement que votre vie se passera dans une sorte de cage avec toutes sortes de médicaments. Vous voyez. Donc ce sont des conséquences très dures, très concrètes. On est loin, je dirais, des rêvasseries théoriques ici.
On en est même, évidemment, très loin. Il y a deux termes sur lesquels j'aimerais qu'on commente. C'est un terme qui vous tient très à cœur, Joseph, c'est la biodiversité humaine. C'est très très beau, et vous parlez plus loin aussi, pas d'univers, mais de plurivers. Très beau.
Oui. Tout à fait. Alors, le terme de plurivers n'est pas de moi. Hein. C'est un terme qui est utilisé régulièrement. Il devrait être utilisé davantage, d'ailleurs, dans le monde de l'autisme et aussi en philosophie au général. Hein, voyez. Donc, cette idée que l'univers porte bien mal son nom. Hein,
oui.
Pourquoi voudrait-on qu'il y ait une réalité unique dans ce qui nous entoure, hein. Au contraire, on devrait insister sur le côté radical, protéiforme de la réalité, qui d'ailleurs... notre vie, je l'espère, heureuse et possible. Si on devait vivre dans un monde uniforme, ça n'aurait aucun intérêt, à mon avis. S'agissant du concept de biodiversité, bon, peut-être assez sottement, j'en suis un peu fier de ce terme. Mais disons que l'idée qui m'avait choqué ou surpris un peu à l'origine, c'était de considérer que l'écologie ou la biodiversité en général s'arrêtait là où commençait le royaume de l'être humain, d'une certaine façon. Donc, typiquement, dans l'écologie classique, on considère la présence de mille et une espèces de plantes, d'oiseaux, que sais-je. C'est absolument fondamental et formidable. Ceci étant, très curieusement, cet état d'esprit s'arrête dès lors qu'il est question de l'être humain, qui lui est considéré de façon homogène et extrêmement normatrice. Je pense que l'état d'esprit écologique devrait s'appliquer, je crois, à l'ensemble du vivant, donc y compris l'être humain. Hein. Et c'est une sorte de petite révolution personnelle que j'ai été amené à faire en fréquentant des milieux écologiques, en fréquentant des foires de légumes bio et d'autres choses.
Oui, j'avais noté cette phrase, il n'y a pas d'écologie de protection de la diversité de l'être humain. Mais alors qui peut nous sauver? si les plantes, certaines populations animales sont sauvées, sont prises en charge par l'écologie, qui pourrait nous prendre en charge?
Si notre biodiversité n'est pas assumée.
Merci pour la question. Toutefois, je ne suis pas sûr qu'il faille attendre une quelconque instance centrale, ultramondaine, qui nous sauverait. Voyez, non, c'est plutôt une action concrète que chaque personne peut mener, une action d'apport de réflexion dans sa pensée, une action, je dirais, praxis extérieure. Ensuite, voyez, il n'y a pas forcément à tout attendre d'une quelconque instance, d'un comité gouvernemental, à je ne sais quoi. Hein, voyez, tout comme d'ailleurs l'écologie est avant tout un état d'esprit personnel, je crois. Hein, voyez, donc la prise en compte de la biodiversité humaine peut résulter, je crois, d'une approche semblable. Et entendons-nous bien, hein, quand il est question de biodiversité, il est question d'autisme et de toutes sortes d'autres sujets. Hein, par exemple, je pense à la trisomie 21 et d'autres particularités. Ce qui est fascinant et ce qui est très rarement porté au langage dans les discussions autour du handicap, c'est l'étonnant nombre de points communs qu'il y a entre les handicaps. Hein. Pour le dire avec cette question qui est brutale, mais qui nous fait réfléchir, quels sont les seuls enfants, par exemple, qui ne se moquent jamais des enfants autistes? Eh bien, ce sont les enfants trisomiques. Voyez, rien que ce type de réflexion-là peut nous donner à réfléchir bien au-delà des labels médicaux ou des catégorisations médicales, pour ainsi dire.
Passionnant, évidemment. Hein. C'est ce que vous retrouvez dans Nos intelligences multiples, nouveau livre de Joseph Cohen avec Le bonheur d'être différent, qui est notre invité aujourd'hui. C'est paru aux éditions de l'Observatoire. On va passer les chapitres, évidemment, et on arrive à la démonstration, finalement, que vous faites, que les intelligences singulières, que vous pouvez appeler aussi intelligences autistiques, vous dites, elles ont façonné notre monde et notre présent, alors qu'aujourd'hui, comme on est en pleine homogénéisation, comme il faut être dans la norme pour exister, bah, ces intelligences singulières, elles sont de moins en moins mises à profit, et ce qui est évidemment une grave erreur pour le monde à venir. Est-ce que vous pouvez d'abord décrire ce que c'est ces fameuses intelligences multiples singulières?
On pourrait parler peut-être d'aptitude à créer des mondes. C'est un peu comme Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, mais de ces Amériques-là, il pourrait y en avoir beaucoup, presque en nombre infini. Et l'idée ou le défi pourrait être pour chaque personne de découvrir, je dirais, son Amérique ou son Eldorado. On pourrait peut-être le formuler en ces façons-là. Et peut-être que les personnes dites différentes, étant donné que le monde présent, le monde normatif qui les entoure est trop rude, ne leur permet pas un plein épanouissement, peut-être que ces gens-là ont plus fortement encore que d'autres l'aptitude à créer des mondes nouveaux. Pour le dire peut-être très simplement, plus un enfant autiste sera rejeté en classe ou par les autres, et bien plus peut-être il aura cette aptitude à avoir pour camarade le capitaine Nemo et d'autres figures encore. Et évidemment, est-ce qu'il vaut mieux être ami avec le voisin de classe ou avec le capitaine Nemo? Ça, je laisse chacune en juger.
Et on sait très bien quel est votre avis sur la question, Joseph.
Être ami de Nemo, c'est quand même chouette. Hein. Il parle je ne sais combien de langues, il collectionne les mollusques et il se balade à travers le monde. Ce n'est pas chouette, ça. Combien d'écoliers en font autant, hein?
C'est vrai, c'est vrai. Ce qui est dingue, alors, c'est cette capacité, vous dites, hein, et c'est ça les intelligences, à bâtir des mondes, à vivre là, ben, où on sera heureux, à plutôt être ami avec le capitaine Nemo qu'avec Edouard, qui de toute façon nous tape sur le système. C'est ça que vous voulez nous dire. Or, la société nous pousse à vivre ensemble avec le réel, perdre notre temps devant la télévision, à étudier des choses qui ne nous serviront peut-être jamais. C'est-à-dire qu'en fait, toute la société nous pousse, Joseph, à vivre dans le réel.
Oui, je suis bien conscient. Oh, et je suis, je dirais, le premier à inciter mes camarades autistes à avoir des activités dans le monde réel. Simplement, il faut, pour parler peut-être comme Ben Gurion, que l'étincelle, je crois, de rêve ne disparaisse pas. Voyez, vous pouvez vivre dans, je dirais, le monde réel du travail peut-être 8-9 heures par jour. Mais essayez de garder un petit créneau de rêve pour vous. Oui, ce serait terrible de le perdre. Ah, je ne vous cacherai pas, Jérôme, qu'il y a des discussions entre camarades autistes. Il y a ceux qui refusent totalement de jouer le jeu, on va dire, du monde non autistique, de jouer la comédie sociale, comme on dit. D'autres qui, je dirais, sont un peu plus dans l'acceptation d'un certain nombre de codes sociaux. Hein. Donc, chacun fait son choix. Hein. Je ne suis pas le garde-chiourme pour prescrire aux gens ce qu'ils doivent faire. Je constate simplement que si vous mettez trop le curseur dans le rejet, je dirais, de la société, votre vie sera très compliquée. Vous n'aurez pas de source de revenus, etc. Donc, voyez, il faut jouer un peu sur deux tableaux. Il faut être bilingue, on va le dire comme ça. Hein. Donc, on peut avoir une sorte de frontière linguistique et habiter alternative d'un côté et de l'autre. Je ne sais pas si
du bilinguisme social.
Voilà, c'est exactement.
C'est bien. Oui. Jacques de Pierrepont.
Mais à un certain moment, dans nos intelligences multiples, il est question du golem, cette création mythique juive, le surhomme fabriqué à partir de la glaise. Et vous faites remarquer que